Oui, la commission Fontaine-Nadeau avec Marc et Isabelle. Bonjour à vous deux.
Bon matin.
Bon matin.
On a deux sujets super intéressants ce matin. Entre autres, Greenpeace qui poursuit le gouvernement de l'Ontario. Marc, d'abord.
Oui, bien, on sait que suite à son élection, le premier ministre Doug Ford en Ontario avait fait des promesses comme bon, celle de réduire la taille du conseil municipal de Toronto et également de se retirer du marché du carbone. Mm-hmm. Donc, il est allé de l'avant et là, Greenpeace est tenté une poursuite parce que, selon la loi, le gouvernement aurait, il a illégalement omis de mener des consultations publiques sur la question. Et ça, c'est prévu dans la Charte des droits de environnementaux de l'Ontario. Donc, on demande à la Cour supérieure d'annuler la loi. Mm-hmm. Et semble-t-il que les audiences seront assez rapides là, d'ici la fin du mois parce que, bon, c'est un sujet qui va être traité en urgence. Alors, c'est c'est le deuxième sujet, deuxième mesure que le gouvernement Ford voit être portée devant les tribunaux et ça risque de faire beaucoup d'étincelles.
Isabelle, est-ce que ça t'a surpris?
Non, ça m'a pas particulièrement surpris. Je pense que, tu sais, bon, Doug Ford, là, comme Marc le disait, est déjà devant les tribunaux pour sa tentative de réduire le nombre d'élus municipaux de 47 à 25. La ville de Toronto s'était présentée à la suite de ce projet de l'adoption de cette loi-là, s'est présentée devant la Cour supérieure en prétextant que c'était pas le bon moment de faire ces changements-là puisque la campagne est en cours. Hein, l'élection aura lieu quelque part au mois d'octobre. Mm-hmm. Et que ça brimait la liberté d'expression, notamment des candidats à l'élection municipale. Et la Cour a donné raison à la Ville et a rejeté le changement, la réduction du nombre d'élus que Doug Ford mettait de l'avant. Mais en fait, ce qui est vraiment inquiétant dans ces deux poursuites-là, ces deux grandes promesses de Doug Ford qui se retrouvent dans un débat judiciaire, c'est sa posture à lui comme premier ministre. Donc, il attaque par la guerre qui va mener devant les tribunaux pour concrétiser ses engagements, deux grands principes. D'abord, le premier, c'est le fait d'être élu. Ça ne donne pas nécessairement la légitimité de tout faire n'importe comment. C'est un peu ce que lui a dit la Cour dans le cas de la réduction des élus en lui disant c'est pas le bon moment. Puis c'est un peu aussi ce que prétend Greenpeace en disant vous auriez dû consulter mieux les Ontariens avant de retirer l'Ontario de la bourse du carbone. Lui, il prétend que comme il a été élu, il a la légitimité de tout faire sans égard à l'interprétation des tribunaux. Le deuxième principe qui attaque, c'est que notre système démocratique, il s'appuie sur une indépendance entre le législatif puis le judiciaire, puis entre un équilibre. Et lui, il s'attaque directement à cet équilibre-là en confrontant les tribunaux sur sa propre façon de faire. Donc, c'est un peu... on peut faire des parallèles avec Trump ici, entre Doug Ford puis Trump, parce que cette espèce de rejet des institutions et cette intention de tirer profit de certains ressentiments dans la population pour bulldozer des modifications, des projets de loi importants.
Ben, j'ajouterais que, et ça, Ford l'a mentionné, que son projet de loi, il veut le représenter pour Toronto d'ici la fin de la semaine et il a mentionné vouloir utiliser la clause dérogatoire. Donc, pour faire en sorte que ça puisse...
Passer par-dessus,
donc entre guillemets, bulldozer.
Passer par-dessus la Charte des droits et libertés canadiennes.
Voilà.
On le fait. Cette clause-là, elle existe pour protéger le droit d'une très grande collectivité. Mais dans ce cas-ci, est-ce que vraiment le nombre d'élus dans la ville de Toronto est un enjeu qui nécessite une aussi grande intervention? Ou est-ce qu'on ne peut pas laisser la campagne électorale se dérouler, avoir un nouveau conseil municipal, poursuivre cette discussion-là, ce débat-là, et éventuellement en venir au cours des 4 ans que dureront le mandat Doug Ford à une position un peu plus équilibrée qui prendra en compte l'intérêt de tout un chacun? Là.
Mais Trump va... pas Trump, Doug Ford.
Bon lapsus.
Parce que, ouais, bon lapsus. Non, mais c'est parce que je veux parler du comparatif entre lui et Trump après. Mais Ford va se défendre en disant, écoutez, moi, c'était dans ma plateforme électorale. Alors, je l'ai mentionné aux Ontariens, j'ai été élu, donc je suis allé de l'avant de ce côté-là. Est-ce que c'est gros d'utiliser la clause dérogatoire? Oui, parce que ça crée tout un précédent. Mm-hmm. Parce qu'à un moment donné, c'est pour chaque mesure qui est contestée devant les tribunaux.
Et c'est pas mal une première en Ontario, je pense.
C'est la première fois. Hein? C'est la première fois. Ouais. Mais pour revenir à la comparaison que je trouve quand même intéressante entre lui et Trump, parce que bon, il y a des corollaires qui sont frappants, mais Ford est beaucoup plus rusé, beaucoup moins impulsif, mieux entouré également.
Peut-être plus prévisible aussi.
Prévisible, oui, parce que...
Tu connais sa ligne un peu, tu connais le gars, c'est un gars de droite, typique, là.
Voilà, et c'est quelqu'un qui est entouré, grosso modo, là, par les gens qui étaient autour de Stephen Harper à Ottawa. Donc, qui ont fait sa campagne, qui ont fait sa transition et qui occupent actuellement les officines du pouvoir. Donc, oui, il y a au niveau d'un certain populisme une comparaison avec notre ami Trump, mais je ne les mettrais pas nécessairement dans la même case parce que, tu l'as mentionné, Steve, c'est plus prévisible.
Oui.
Son programme est connu.
Il y a une expérience politique aussi.
Ah, il y a une expérience politique, même si c'était pas, au provincial. Il y en a une au municipal, donc il est rompu
c'est
à ces jeux-là.
C'est quand même un politicien de carrière en quelque sorte. On va sur un autre dossier, l'ALENA. On sent qu'il y a eu des rapprochements. On est peut-être plus proche d'une certaine signature. Mais d'ailleurs, on parlait de droite. Ben, il y a Brian Mulroney qui est à la table de négociation. C'est quand même un ancien chef conservateur. Oui. Qui semble dire, il y a un message qui est assez clair, moi je trouve, aux agriculteurs du coin. Il n'y aura pas de signature s'il n'y a pas de flexibilité sur la gestion de l'offre.
Ouais, ouais, on en a parlé il y a deux semaines avec Hélène et on a dit que, moi je disais que à mon avis la gestion de l'offre était en péril, puis je pense que les deux dernières sorties de Brian Mulroney, parce que c'est pas sa première sortie, c'est sa deuxième sortie, je vous le rappelle, il est sorti il y a quelques semaines pour dire que lui il considérait que la gestion de l'offre c'était fini. Il sort hier en disant qu'il va falloir faire des concessions, donc ça c'est extrêmement préoccupant pour nos agriculteurs. Particulièrement au Québec. Tu sais, on peut interpréter ça de deux façons. Je pense qu'à terme, tout le monde s'entend pour dire qu'on devra faire des concessions sur la gestion de l'offre. Puis quand on dit ça, on a en tête les concessions qui ont déjà été faites dans le cadre du partenariat transpacifique puis de l'accord économique global avec l'Union européenne. Ceci dit, quand Brian Mulroney sort et dit publiquement qu'il faudra faire des concessions, il envoie aussi un message à Trump où il dit que, dans le fond, on est probablement prêt à en faire. Et quand on regarde le personnage de Trump, on se dit, non, mais est-ce que cet homme-là va se contenter des gains que l'Europe ou d'autres juridictions ont eu dans le cadre du partenariat transpacifique? Probablement que non. Probablement que lui, il va considérer une victoire s'il nous fait faire plus de concessions que celles qu'on a déjà faites. Mm-hmm. Donc ça, c'est inquiétant d'une part. D'autre part, on peut aussi se demander, deux sorties de suite à six petit intervalle, est-ce que c'est pas plutôt une façon de préparer l'opinion publique? Est-ce que déjà, dans l'esprit de Justin Trudeau, ou en tout cas des négociateurs canadiens, il y a pas... ces concessions-là sont peut-être déjà faites.
Déjà faites.
Ils les considèrent déjà, puis ils préparent l'opinion publique à ça en faisant sortir un homme avec autant d'influence qui dit déjà, préparez-vous, il y aura des concessions. Donc, dans tous les cas, moi,
c'est extrêmement préoccupant. Un outsider aussi, tu sais, c'est quelqu'un qui est plus sur la scène politique canadienne.
Non, mais quand même, c'est lui qui conseille Justin Trudeau sur la renégociation.
Parce qu'il ne va pas payer le prix. Moi, c'est là l'aspect, tu sais, Brian Mulroney, écoute, il ne reviendra pas en politique.
Non, mais en même temps, puis là où je rejoins le propos d'Isabelle, c'est qu'un gars comme Mulroney n'intervient pas publiquement si ce n'est pas coordonné avec le gouvernement.
C'est sûr.
Parce que quand tu conseilles le gouvernement, on s'entend que, bon, tu n'iras pas dire n'importe quoi n'importe où. Ça, c'est clair. Et comme Mulroney le disait, Trump ne lâchera pas de l'Est si on ne lui donne pas quelque chose. Et lui, il a promis à son électorat qu'il revisiterait cet accord-là. Donc, il faut lui donner quelque chose. Et ce que Mulroney dit, en l'essence, c'est, regardez, c'est une tactique de négociation. Si on ne lui donne rien, il ne nous donnera rien. Et là, j'ai aimé ça parce que dans une entrevue, Mulroney mentionne, vous savez, le représentant au commerce des États-Unis, Robert Lighthizer, enfin, je ne sais pas comment on le prononce, mais il n'y a pas une grande marge de manœuvre parce que sur les dossiers de commerce international, Trump est celui qui veut décider et celui qui a le dernier mot. Puis ça, on le voit dans le livre de Woodward que je suis en train de lire en passant. Là, ces dossiers-là, là, Trump là, veut vraiment, il les accapare, il veut être en contrôle.
C'est personnel, hein?
C'est personnel.
C'est même pas une histoire de nation à la limite, là. Je pense
non,
que c'est...
Non, et lui, il l'a promis en campagne, il est monté sur les estrades en disant à ses gens, regardez, moi, je vais aller au front pour ça.
C'était ça, Make America Great Again.
Absolument.
C'est-à-dire, on s'est fait avoir par tout le monde. T'sais.
Absolument. Alors lui, il voudra pas lâcher de lousse là-dessus.
Il faut arrêter de se mettre la tête dans le sable. Là. L'industrie américaine de l'agriculture est grassement subventionnée. Puis la gestion de l'offre chez nous, là, c'est l'occupation du territoire, c'est du dynamisme pour nos régions, c'est plus de transformation de nos produits agricoles ici. Là. Donc, il faut faire front commun pour défendre la gestion
de l'offre. Et là, j'ai hâte de voir parce que Couillard l'avait menacé de conséquences politiques sérieuses.
On est un peu comme David contre Goliath.
Oui, c'est ça. Hein? OK, je suis un peu d'accord avec vous. Merci d'avoir été là ce matin.
Bonne journée.
Merci
à demain. À demain, à vous deux. Alors oui, on verra, mais l'ALENA, ça progresse. Y aura-t-il signature prochaine? On surveille ça pour vous.